Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'entre du Ridicule Morbide. Bienvenue chez Murder Wine and Cheese. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va être encore un peu court. Je m'en excuse, mais je suis en période d'examen et j'ai fait quelques changements au niveau du podcast et de la manière dont il va fonctionner. Mais ça, je vous en parlerai à la fin de l'épisode. En attendant, j'espère que vous apprécierez quand même cette affaire, qui est l'affaire Tania Parnizari ou l'affaire de la petite Sophia. Notre affaire se déroule en 2003 à Brunstadt ou Brunstadt, vous me direz comment c'est prononcé, dans la banlieue de Mulhouse, en Alsace. C'est là que vit Tania Parnizari avec ses trois enfants. Jusque-là, tout va bien, y a rien de bizarre, mais quand on s'intéresse un petit peu au personnage de Tania, on voit que c'est pas une mère idéale. Il y a quelques petites lacunes parentales. En effet, elle est décrite dans son entourage comme une femme colérique et violente, qui n'hésite pas à donner des somnifères à ses enfants pour pouvoir aller en soirée. Après ça fait des économies sur la babysitter, hein, mais c'est quand même pas une mesure que je recommande. Malgré ça, elle semble assez affectueuse avec son fils Michael, mais par contre, elle n'est pas du tout aimante avec sa fille de 7 ans, Sophia, qui est malheureusement la victime dans cette affaire. Effectivement, le 10 mars 2003, à très exactement 17h47, Tania appelle la police pour leur signaler que Sophia n'est pas rentrée de l'école. Pour une fois, on a un travail policier qui est merveilleux, et les policiers prennent immédiatement la disparition au sérieux et recherchent Sophia dans toute la ville. Malheureusement, la fillette est déjà morte et son corps sera retrouvé dans un ruisseau le lendemain, à 500 mètres de chez elle. Elle est pieds nus, ses chaussettes sont dans des fourrés, mais ses chaussures sont étrangement introuvables. Heureusement, enfin dans ce contexte, le corps ne présente aucun signe d'agression sexuelle et un cheveu est retrouvé entre son pouce et son index qui devrait faciliter l'enquête. Informée de la mort de sa fille, Tania n'a pas vraiment de réaction, mais on verra plus tard pourquoi. Par contre, elle met immédiatement les enquêteurs sur la piste d'un rôdeur qui avait été repéré errant autour des écoles la semaine précédente. Ce rôdeur est rapidement retrouvé, mais le truc c'est qu'il a un alibi et l'ADN de Sophia n'est pas retrouvé dans son véhicule qui doit probablement être une camionnette. Bref, les enquêteurs se retournent donc vers Tania. En effet, celle-ci, comme je viens de vous le dire, avait montré un comportement assez désintéressé lors de la découverte du corps de Sophia, mais en plus, Michael, le frère aîné de Sophia, a contredit sa mère en disant que Sophia était bien rentrée de l'école le jour de sa disparition. Ah, c'est vrai que quand on a une contradiction sur un truc aussi simple, ça porte à jugement. Face à ce premier revirement de situation, Tania change immédiatement de version. Sophia est bien rentrée de l'école, mais elle est immédiatement ressortie pour aller rejoindre son frère au terrain de jeu du coin. Elle dit aussi avoir consommé de l'alcool et des médicaments et s'être ainsi endormie après le départ de Sophia. D'ailleurs, elle a été dépistée à 1,32 g au moment de la découverte du corps. Mère de l'année, vraiment, une mère exemplaire. Non, sérieusement, quand on te pose des questions et que ton premier argument c'est « non mais j'étais défoncée », ouais, on part pas sur des bonnes bases, hein. Ça risque de poser des problèmes au tribunal, hein. Clairement. Le juge, il va regarder de travers un peu, hein. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, Tania a dit qu'elle était complètement endormie, défoncée, au moment où Sophia est partie jouer avec son frère au terrain de jeu. Mais ses relevés téléphoniques indiquent qu'elle ne s'est pas endormie entre 16h et 18h. Et il n'y a que deux moments où elle n'utilise pas son téléphone, entre 16h29 et 17h09, et entre 17h29 et 17h47, moment où elle appelle la police pour signaler la disparition de Sophia. De plus, les enquêteurs repèrent des marques sur Tania qui ressemblent à celles retrouvées sur Sophia, qui avait été retrouvée donc près de buissons d'ortie. Et enfin, l'autopsie atteste que c'est une main de femme qui a étranglé ou asphyxié Sophia, puisque l'autopsie n'est pas définitive sur le mode de décès, et le cheveu retrouvé dans sa main est celui de sa mère. Auditionnée, Tania clame son innocence, mais elle semble toujours aussi intéressée qu'au moment où on avait retrouvé le corps de sa fille, et devient ainsi la première suspecte. Le 19 mars 2003, Tania Parnizari est mise en examen. Les enquêteurs découvrent alors que le jour de la disparition de Sofia, son mec, Ahmed, est venu la voir, mais est vite reparti, ce qui l'a énervé et a entraîné sa prise d'alcool et de médicaments. Tania, les gens ont des trucs à faire. Si ça se trouve, le pauvre gars avait juste un truc à faire, je sais pas, un colis à aller chercher, un jogging à faire, je sais pas moi, du fromage de chèvre à aller chercher à Monoprix. Mais c'est pas toi le problème, c'est juste que les gens ont une vie, en fait. Vraiment, c'est une des raisons les plus pétées que j'ai jamais entendues pour une prise d'alcool et de médicaments, quoi. Ça y est, le gars est resté que 45 minutes et elle était à bout, quoi. Je sais que c'était son anniversaire et qu'elle avait préparé un truc, etc. Elle avait même préparé un gâteau, mais bon, des fois, les gens ont juste le temps de manger une part de gâteau et de repartir. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, passons. Il n'est donc pas difficile que si Tania s'est énervée aussi facilement, il n'est pas difficile d'imaginer que Sofia ait subi son courroux, malheureusement, en rentrant de l'école et que ce soit allé trop loin. C'est à peu près ce sur quoi se base l'accusation. Donc, le 29 janvier 2007, 4 ans plus tard, donc, le procès commence à la cour d'assises de Colmar. Tania, comme la plupart des gens dont j'ai parlé dans ce podcast, affirme qu'elle est innocente et que tout est un complot contre elle, parce qu'après après tout, elle est une mère si parfaite et innocente. Bref, elle dit qu'elle est innocente, quoi. Et sa défense a des arguments qui pèsent leur pesant de cacahuète, pour une fois. On n'a pas une défense bancale, on a une défense qui se base sur des arguments. Après, ce sera à vous de juger si ces arguments sont valables ou non. Donc, selon ses avocats, Tania n'a pas pu tuer sa fille puisque, au moment de la disparition, elle avait un bras dans le plâtre et n'aurait pas pu manipuler le corps. Alors, le truc avec cet argument, c'est que elle s'était fait mal au bras après l'avoir eu dans le plâtre en manipulant des planches. Donc, on peut penser que si elle est assez forte avec son plâtre pour manipuler des planches, elle est assez forte pour manipuler le corps de sa fille qui n'avait que 7 ans et ne devait pas peser très très lourd. Deuxièmement, selon la défense, la terre retrouvée aux abords du ruisseau où a été retrouvé le corps de Sofia ne correspond pas à la terre retrouvée sous la poussette que Tania aurait utilisée pour déplacer le corps. Poussette, c'est un mot dur à dire. Enfin, il est possible que l'état de Tania, qui était alcoolisée et défoncée pour une durée indéterminée, puisque elle est tout le temps, on dirait, soit la raison pour laquelle elle a dit que Sofia n'était pas rentrée de l'école. En effet, l'amnésie est un effet courant des benzodiazépines qu'elle consomme régulièrement. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est des arguments qui pèsent leur pesant de cacahuètes, mais qui peuvent quand même être contredits et qui, au final, ne pèsent pas vraiment comparé aux arguments de l'accusation. Donc Tania est condamnée à 20 ans de prison, et là, à ce moment-là, elle se met à pleurer pour la première fois de l'affaire. Elle n'a pas pleuré à la disparition de sa fille, elle n'a pas pleuré au moment où son corps a été retrouvé, mais elle pleure au moment où elle est condamnée. Ça montre vraiment ses priorités, quoi. Bref, elle fait appel, ce qui lui permet de réduire sa peine de 2 ans, et continue aujourd'hui de clamer son innocence dans l'indifférence générale, ce que je comprends totalement. Elle est notamment aidée de sa marraine qui matraque à fond les médias sur les arguments de la défense, mais bon, si vous n'avez pas entendu parler de Tania Parnizari, c'est pour une raison, elle est là où elle est. Que les arguments de la défense soient valables ou pas, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de juger. Voilà, c'est tout pour l'affaire Tania Parnizari. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'elle devrait être innocentée ou au moins avoir un nouveau procès. Personnellement, je pense que non. Mais après, c'est mon opinion, et vous avez le droit d'avoir la vôtre, et vous avez le droit de m'en faire part sur le nouveau compte Twitter du podcast, @mwacpod, moi pod. ou sur le site murderwinecheese.com. N'hésitez pas à faire un don aussi pendant que vous êtes là, le lien est dans la description. Donc concernant les petits changements dont je vous ai parlé au début de l'épisode, ces petits changements concernent le rythme de parution des épisodes. Donc définitivement maintenant c'est un épisode toutes les deux semaines, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser une semaine sans rien. En effet, j'ai décidé que entre chaque épisode, je mettrai sur mon Twitter un petit thread sur une affaire qui ne sera pas forcément française. Ça, c'est un petit changement, j'ai décidé de m'ouvrir un peu, voilà, et comme ça vous aurez un petit peu de contenu pour vous divertir et vous informer le temps que je prépare l'épisode d'après. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, comme je vous l'ai dit, Twitter, le site, le PayPal dans la description, tout est là pour vous si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous souhaite de ne pas choper la grippe ni le corona et de trouver un billet de 10 par terre. Et je vous dis à la prochaine !